Chapitre 2 Faux docteurs et secte de perdition. Après avoir placé devant nous, dans la première partie de l'épître, la vie pratique de piété par laquelle nous pouvons résister à la corruption qui est dans le monde, l'apôtre dénonce maintenant cette corruption et nous met en garde contre elle. Ayant cherché à nous affermir dans la vérité présente, chapitre 1, verset 12, il peut nous avertir contre l'erreur présente. Dans le reste de l'épître, nous sommes, par conséquent, clairement mis en garde contre les deux formes de mal qui caractérisent la chrétienté dans les jours où nous vivons. L'apôtre dénonce d'abord, dans le chapitre 2, les sectes de perdition, introduites par les faux docteurs, puis, dans le chapitre 3, l'incrédulité des moqueurs, qui nient le retour du Seigneur et l'établissement du royaume. Verset 1. Citation de l'Écriture. Or, il y a eu aussi de faux prophètes parmi le peuple, comme aussi il y aura parmi vous de faux docteurs qui introduiront furtivement des sectes de perdition, reniant aussi le maître qui les a achetés, faisant venir sur eux-mêmes une prompte destruction. Fin de citation. Dans ce chapitre, l'apôtre expose la terrible condition qui s'établit dans la chrétienté par les faux docteurs et nous met en garde contre celle-ci. Le premier verset décrit le caractère du mal qui est suscité, non par l'opposition venant de dehors, mais par la corruption au milieu de la profession chrétienne. De même qu'autrefois il y a eu des faux prophètes parmi le peuple de Dieu, nous sommes avertis que de faux docteurs se lèveront parmi nous. Ces hommes prétendent être des docteurs, et ils trompent les simples, comme un autre l'a dit, en « mélangeant l'erreur et la vérité, de manière à ce que la vérité attire les âmes sincères et les rende inattentives à l'erreur qui y est mêlée. » « Ils sont parmi vous, dit l'apôtre. Ils avaient manifestement fait une belle profession de christianisme, trompant ceux qui les avaient admis dans leur compagnie chrétienne. Si, dans les jours qui ont suivi ceux des apôtres, de telles personnes se sont levées parmi les chrétiens, devons-nous nous étonner qu'aujourd'hui de faux docteurs se manifestent dans les groupes de croyants ayant le plus de lumière? Les erreurs de ces faux docteurs sont introduites en secret ou furtivement, une déclaration qui montre que les fausses doctrines sont toujours introduites insidieusement et non ouvertement. Cette clandestinité porte en elle sa condamnation, car il n'est pas nécessaire de voiler la vérité. Il peut certes y avoir des époques où certains groupes d'enfants de Dieu ne sont pas en état d'apprécier les vérités profondes de Dieu, comme dans le cas de l'assemblée à Corinthe, 1 Corinthiens 3, verset 2. Mais il n'y avait pas de secret quant aux vérités pour lesquelles ils n'étaient pas préparés. Ces erreurs introduites furtivement sont des sectes de perdition. Il ne s'agit pas simplement de vues erronées quant à la vérité, mais de sa négation. Ce sont des erreurs qui sont fatales au christianisme, qui le détruisent et qui conduisent ceux qui les retiennent au reniement du maître qui les a achetés. C'est l'iniquité qui rejette l'autorité du Seigneur et ouvre la porte à toutes les formes de volonté propre. L'apôtre ne dit pas « le maître qui les a rachetés ». Il ne compte pas ses faux docteurs au nombre des rachetés. On a fait la comparaison avec un maître qui a acheté des esclaves au marché, et ceux-ci le renient et refusent de lui obéir. Ces hommes avaient professé le nom du Seigneur, et ils avaient été reçus au milieu des chrétiens, mais maintenant, ils enseignaient des erreurs reniant le Seigneur. Ils n'appartiennent pas réellement au Seigneur, et leur fin sera une prompte et complète destruction. Ils avaient introduit des sectes de perdition, et ils connaissent eux-mêmes une prompte destruction. Versets 2 et 3. Citation de l'Écriture. Et plusieurs suivront leurs excès, et à cause d'eux, la voie de la vérité sera blasphémée, et, par cupidité, ils feront trafic de vous avec des paroles artificieuses. Mais leur jugement dès longtemps ne demeure pas oisif, et leur destruction ne sommeille pas. Fin de citation. Nous sommes ensuite mis en garde contre l'effet terrible produit par les erreurs de ces hommes méchants sur la masse de la chrétienté professante. Plusieurs suivront leurs excès, est-il dit. Allant de pair avec les sectes de perdition, on trouvera toujours la mondanité la plus flagrante, car les fausses doctrines conduisent à une mauvaise marche pratique. Il se peut que la masse ne comprenne pas ou ne soit pas en mesure de suivre leurs mauvaises doctrines, mais la chair sait apprécier les voies mondaines et s'y engager. La chrétienté contaminée par la fausse doctrine s'est enfoncée dans une mondanité flagrante qui caractérise la profession chrétienne aujourd'hui. Le résultat est que la voie de la vérité est blasphémée. Le monde n'est peut-être pas capable de discerner entre l'erreur et la vérité, mais il peut au moins voir et condamner la vie dissolue de ses professants. Jugeant le christianisme d'après ces hommes et leur mauvaise vie, il est naturellement amené à blasphémer la voie de la vérité. En outre, cette disposition d'esprit mondaine ouvre la porte à des méthodes mondaines. Poussés par la cupidité, ces faux docteurs font trafic de la religion avec des paroles artificieuses. Comme les Juifs autrefois avaient fait du temple de Dieu une maison de commerce, ces faux docteurs se servent de leur profession chrétienne et de leur éloquence naturelle pour gagner de l'argent. Sous l'influence de ces hommes, une grande partie de la chrétienté a été entraînée dans l'iniquité, reniant le Seigneur, et est devenue mondaine, dissolue dans ses voies et indifférente à la vérité. Une telle condition doit inévitablement appeler le jugement de Dieu sur ces méchants. Que le jugement soit tombé autrefois sur les iniques et les rebelles n'est pas une fable. Il peut sembler pendant un certain temps que le mal prospère sans être jugé. Mais Dieu n'est pas indifférent, comme quelqu'un qui sommeillerait et serait inconscient de ce qui se passe. Le jugement vient sûrement. Versets 4 à 8. Citation de l'Écriture. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais les ayant précipités dans l'abîme, les a livrés pour être gardés dans des chaînes d'obscurité pour le jugement, et s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais a préservé Noé, lui, huitième, prédicateur de justice, faisant venir le déluge sur un monde d'impies, et si, réduisant en cendres les villes de Sodome et de Gomorre, il les a condamnés par une totale subversion, les établissant pour être un exemple à ceux qui vivraient dans l'impiété, et s'il a délivré le juste Lot, accablé par la conduite débauchée de ces hommes pervers, car ce juste qui habitait parmi eux, les voyant et les entendant, tourmentait de jour en jour son âme juste à cause de leurs actions iniques. Fin de citation. L'apôtre prend trois illustrations solennelles dans l'histoire du monde pour prouver que l'iniquité et la rébellion appellent le jugement de Dieu en destruction. Premièrement, les anges qui ont péché ont été précipités dans l'abîme, étant livrés pour être gardés dans des chaînes d'obscurité en attendant leur jugement définitif. Deuxièmement, dans les jours de Noé, l'ancien monde des impies a été détruit par le jugement du déluge. Troisièmement, les villes de Sodome et de Gomorre ont été condamnées et réduites en cendres. Ces jugements solennels par lesquels Dieu est intervenu dans les lois ordinaires de la nature et dans le cours du monde sont des exemples pour les impies des temps qui ont suivi. La chrétienté, indifférente à ces avertissements, se livrant à la même iniquité et à la même rébellion, connaîtra le même jugement inexorable. Néanmoins, les jugements d'autrefois, qui sont un avertissement pour les impies, portent en eux un encouragement pour les fidèles. Ils nous disent clairement qu'au milieu de toutes ces terribles calamités, Dieu avait ses élus qui ont été sauvés du jugement. Aujourd'hui, il n'en est pas autrement, car au sein de la corruption croissante de la chrétienté, Dieu a ses fidèles. Même ainsi, l'Esprit de Dieu indique qu'il y aura une grande différence entre les saints vivant une vie de piété pratique dans la séparation et les saints tournés vers le monde qui, n'ayant pas les caractères d'une vie pieuse, se livrent à des associations mondaines et par là ne font que tourmenter leur âme et s'attirer des peines. Noé est un exemple du saint marchant dans la séparation qui rend témoignage au monde. Nous lisons que Noé était un homme juste. Il était parfait parmi ceux de son temps. Noé marchait avec Dieu. Genèse 6, verset 9. Pierre nous dit qu'il rendait témoignage pour Dieu étant un prédicateur de justice. Lot est une image de cette vaste classe de croyants qui, n'ayant pas la foi pour marcher dans le chemin de la séparation, s'installe dans le monde, mais n'y sont pas des témoins pour Dieu, même s'ils sont sauvés à la fin. L'apôtre Pierre nous dit certes que Lot était juste, toutefois, parce qu'il habitait parmi les hommes pervers, il tourmentait de jour en jour son âme juste, en entendant leurs conversations impures et en voyant leurs actions iniques. Il ignorait tout d'une marche dans la paix et la proximité de Dieu. Versets 9 à 13. Citation de l'Écriture. Le Seigneur s'est délivré de la tentation les hommes pieux et réservé les injustes pour le jour du jugement, pour être punis, mais spécialement ceux qui suivent la chair dans la convoitise de l'impureté et qui méprisent la domination. Gens audacieux, adonnés à leur sens, ils ne tremblent pas en injuriant les dignités, tandis que les anges, plus grands en force et en puissance, ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. Mais ceux-ci, comme des bêtes sans raison, purement animales, nées pour être prises et détruites, parlant injurieusement dans les choses qu'ils ignorent, périront aussi dans leur propre corruption, recevant la récompense de l'iniquité, estimant plaisir les voluptés d'un jour, des taches et des souillures, s'abandonnant aux délices de leur propre tromperie, tout en faisant des festins avec vous. » Fin de citation. L'apôtre conclut donc que le Seigneur s'est délivré de la tentation les hommes pieux et réservé les injustes pour le jour du jugement. Un peu plus haut, il a placé devant le croyant l'aube du jour de la gloire à venir. Maintenant, il nous avertit du jour du jugement pour les méchants. Quelle image solennelle et effrayante que celle de la condition de la chrétienté depuis ces jours. D'abord, il nous est rappelé qu'il y aura de faux docteurs introduisant des sectes de perdition, l'iniquité et la mondanité. Deuxièmement, la grande masse sera entraînée dans leur voie mondaine pour sa destruction, étant séduite par leurs belles paroles. Troisièmement, nous sommes encouragés par la connaissance qu'au milieu de toute la corruption, il y aura ceux qui seront préservés du mal et qui seront des témoins de la vérité. Quatrièmement, il y en aura qui sont véritablement justes et qui sont sauvés du jugement, mais qui, en raison de leurs associations, ne sont pas des témoins pour Dieu. Le reste du chapitre présente d'une manière détaillée les caractères terribles de ceux qui, dans la profession chrétienne, tombent sous le jugement. Ces hommes iniques, marchant selon la chair et ses passions, se rebiffent naturellement contre tout ce qui les empêcherait de les satisfaire. Ils méprisent la domination. Étant caractérisés par les convoitises et l'iniquité, ils sont audacieux et adonnés à leur sens. Leurs désirs impurs les rendent audacieux dans la méchanceté. L'iniquité les conduit à vivre leur volonté propre. Leur langue n'est pas tenue en bride, car ils injurient les dignités, ce que les anges ne se permettraient pas de faire. Comme des bêtes sans raison, ils parlent injurieusement dans les choses qu'ils ignorent. Ceux-ci périront dans leur propre corruption. La convoitise et l'iniquité ont en elles les éléments de corruption qui entraînent la destruction de ceux qui marchent dans ces choses. La convoitise, l'iniquité, l'audace, la volonté propre et la corruption effrénée de ces derniers jours seront plus terribles que tout débordement de mal dans le passé, en ce qu'elle se manifeste dans la profession chrétienne et existe dans la pleine lumière de la vérité. En général, les hommes, par honte, attendent l'obscurité de la nuit pour se livrer à leurs méchantes actions. Mais ceux-ci, sans honte, s'adonnent à leur volupté en plein jour. Quelqu'un a dit « Ils ont appris à voir la lumière de face et à la défier. » Ils prennent leur place avec les chrétiens. En réalité, ils ne sont que des taches et des souillures sur le nom de chrétiens. Sans honte, ils se glorifient de ce qu'ils trompent les autres. Versets 14 à 19. Citation de l'Écriture. Ayant les yeux pleins d'adultère et ne cessant jamais de pécher, amorçant les âmes mal affermies, ayant le cœur exercé à la cupidité, enfant de malédiction. Ayant laissé le droit chemin, ils se sont égarés, ayant suivi le chemin de Balaam, fils de Bozor, qui aima le salaire d'iniquité. Mais il fut repris de sa propre désobéissance. Une bête de somme muette, parlant d'une voix d'homme, réprima la folie du prophète. Ce sont des fontaines sans eau et des nuages poussés par la tempête, des gens à qui l'obscurité des ténèbres est réservée pour toujours. Car, en prononçant d'orgueilleux discours de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par leurs impudicités, ceux qui avaient depuis peu échappé à ceux qui vivent dans l'erreur, leur promettant la liberté, eux qui sont esclaves de la corruption. Car on est esclave de celui par qui on est vaincu. Fin de citation. Emportés par leurs désirs impurs, ils ont des yeux qui ne peuvent cesser de pécher, un cœur plein de cupidité, et des pieds qui ont abandonné le droit chemin. Comme pour Balaam autrefois, Dieu se sert des bêtes mêmes pour réprimer leur folie. Ce sont des fontaines sans eau, dont les hommes s'approchent pour trouver aide et rafraîchissement, mais pour constater qu'elles n'ont rien à offrir pour répondre aux besoins de l'âme. Ils sont des nuages poussés par la tempête de leur propre passion qui obscurcissent la lumière du ciel. L'obscurité des ténèbres leur est réservée pour toujours. L'apôtre décrit avec plus de détails l'effet produit sur d'autres par ces faux docteurs. S'adressant aux hommes par d'orgueilleux discours de vanité, qui jettent un voile sur la mondanité et sur les convoitises de la chair, ils attirent ceux qui avaient depuis peu échappé au mal. Cela ne signifie pas que ces derniers avaient été convaincus par la vérité, ni amenés à Dieu, mais que leur conscience était au moins sensible au mal. C'est à ces personnes influencées par ces hommes méchants que la liberté est promise par ceux qui eux-mêmes sont esclaves de la corruption. Versets 20 à 22. Citation de l'Écriture. Car si, après avoir échappé aux souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, étant de nouveau enlacés, ils sont vaincus par elles, leur dernière condition est pire que la première. Car il leur eût mieux valu n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner, après l'avoir connue, du saint commandement qui leur avait été donné. Mais ce que dit le proverbe véritable leur est arrivé, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi lui-même, et la truie lavée à se vautrer au bourbier. Fin de citation. En dépit de leur prétention d'être les serviteurs du Seigneur, ces faux docteurs, avec leurs belles paroles de vanité, sont les esclaves de la corruption. Ils avaient fait profession de christianisme et, par la connaissance du Seigneur, ils avaient échappé pour un temps aux souillures du monde. Mais, étant de nouveau enlacés et vaincus, ils prouvent que bien qu'ayant connu la voie de la justice, ils ne l'ont pas suivie et malgré toutes leurs professions et leurs discours ronflants, ils ne sont pas véritablement des brebis de Christ. Ils ne peuvent être comparés qu'à un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ou à une truie qui, même lavée, reste une truie, et dès que l'occasion s'en présente, retourne se vautrer au bourbier.